Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs bien-aimés, nous voici entrés dans la grande semaine sainte. Nous allons déployer avec toute l'Église cette immense fresque, les derniers jours, les dernières heures de Jésus. Une fresque dépeinte avec force détail par les évangélistes. Nous venons d'entendre le récit de saint Luc. Vendredi, nous entendrons celui de saint Jean. Et toute cette semaine, nous sommes invités à méditer la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans cette immense fresque, chaque détail compte. Et il est bon de s'arrêter à tel ou tel détail. Peut-être que le récitatif par le chant peut nous aider ainsi à ralentir, à nous rendre plus sensibles à telle ou telle expression. L'art aussi chrétien, par ses représentations, ses tableaux, peut nous aider à poser nos yeux, nous arrêter. La méditation de la parole de Dieu en faisant travailler notre imagination, nous représenter chaque détail, nous y arrêter. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a inventé le chemin de croix. 14 stations pour stationner, s'arrêter, contempler. Je voudrais, frères et sœurs, je vous le propose, et nous venons de l'entendre dans le récit de saint Luc, m'arrêter plus particulièrement à la 8e station. Car cette parole résonne tout particulièrement dans mon cœur, souvent j'y reviens. Elle est étonnante, elle ne cesse de m'étonner, elle m'intéresse. « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. » Jésus nous dit, frères et sœurs, « Ne pleurez pas sur moi. » Et je vous pose la question, pourquoi ne faut-il pas pleurer sur Jésus? Il nous l'interdit en quelque sorte. Alors je vous renvoie à l'entrée en carême, c'était il y a 40 jours, jour pour jour, mercredi décembre, le mercredi 5 mars, et puis quelques jours après, avec le dimanche, nous sommes encore plus entrés, plus profondément dans le carême, avec le récit de l'entrée de Jésus au désert. C'était le 9 mars. Et je vous disais, si vous avez écouté, le Seigneur s'impose cette immense épreuve au seuil de son ministère, cette privation de nourriture, cette solitude, épreuve physique et spirituelle à la fois. Nous le disons avec toute la tradition de l'Église, il a voulu être éprouvé et tenté pour que dans les tentations, nous le sentions si proche de nous et victorieux que nous puissions espérer avec lui surmonter nos tentations. Eh bien, voyez, en quelque sorte, on peut dire que la mission de Jésus est encadrée de deux grandes mises à l'épreuve, magistrales vraiment, les 40 jours au désert et cette passion absolument terrible dans laquelle il rentre délibérément, il le décide. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Jésus décide que c'est son heure. Dans le désert, il est éprouvé et tenté, lui qui est immaculé en sa conception. Il veut éprouver notre faiblesse plus connaturelle pour nous, native. Ici, dans la passion, on pourrait dire qu'il ne cherche pas à éprouver la tentation, mais à ce que représente et ce que représentera jusqu'à la fin des temps, ce que représenteront jusqu'à la fin des temps, toutes nos épreuves et les persécutions. Lorsque nous sommes persécutés, lorsque nous subissons une épreuve, lorsque nous affrontons un drame, il y a comme une tentation dans la tentation, il y a une tentation dans l'épreuve, qui n'est pas la tentation directement, mais ce qui résulte de ce qui nous accule, qui nous fait souffrir dans l'épreuve, c'est la tentation de désespérer. Et Jésus ici affronte physiquement, psychologiquement, spirituellement, une épreuve qui dépasse l'entendement. Je dirais même une souffrance supérieure à n'importe quelle souffrance, Pourquoi peut-on dire cela ? Parce que sa sainteté personnelle, son innocence absolue, le fait qu'il soit un agneau sans tache, le rend encore plus sensible au mal et au péché. Quand on n'a aucune connivence avec le péché, le mal est encore plus douloureux. Il est comme un corps étranger. C'est le mystère de la souffrance des innocents, le scandale du martyr des petits et des enfants qui nous le fait comprendre. Et on peut y penser en regardant Jésus, comme il a dû souffrir dans son innocence et sa pureté. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas pleurer sur lui, parce que Jésus serait plus fort, qu'il résisterait mieux que nous, puisqu'il est le Tout-Puissant incarné. Car Jésus renonce ici à sa toute-puissance, vous le savez, il ne fait pas semblant, il souffre vraiment. Comme il mourra vraiment et comme il meurt vraiment dans sa nature humaine, avec son âme et son corps qui sont séparés. Mais ce que nous savons, ce que nous discernons avec les yeux de la foi, frères et sœurs, c'est que celui qui souffre et qui meurt vraiment, qui renonce à sa toute-puissance, oui, ne renonce pas pour autant à sa divinité. Le Fils demeure totalement uni au Père dans sa passion. Le Fils, le Verbe éternel, ne cesse jamais d'être uni au Père. Par conséquent, la communion entre le Fils et le Père est absolument intacte. Celui qui est abominablement défiguré demeure celui qui est plein de grâce et demeure le plus beau des enfants des hommes. Alors pourquoi faut-il pleurer sur nous? Si en comprenant cela, nous voyons que Jésus, dans son immense souffrance, reste pleinement uni au Père. Je vais y revenir. Mais maintenant, je viens à la deuxième affirmation de Jésus qui nous adresse vraiment. Jésus nous dit « Pleurez sur vous !» Pourquoi, Seigneur? Parce que nous sommes assez stupide pour pleurer sur lui sans pleurer sur nous. Assez stupide pour ne pas comprendre la leçon qui nous est pourtant répétée chaque année dans la semaine de la Passion. Nous ne saisissons pas cette leçon offerte au jour des rameaux et vendredi au vendredi saint lorsque nous entendrons encore la Passion. Que devons-nous comprendre? Je vais essayer de l'expliquer. En tout cas, ce que j'en comprends. Quand Jésus dit cela aux femmes de Jérusalem, il leur dit, ce qui est mystérieux aussi comme parole, « Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ?» Je ne sais pas ce que vous comprenez dans cette parole. De quoi il nous parle Jésus là? Jésus, c'est comme ça que je le comprends, Jésus est l'arbre vert, plein de sève, plein de vie, plein de vigueur. Nous sommes capables, alors que nous sommes greffés à lui par le baptême, de nous laisser vider, évider de vie, de tomber dans la disgrâce par le péché, sans recouvrer l'état de grâce par le sacrement du pardon, par la réconciliation. Or, que deviennent les arbres secs lorsque survient la tempête? Ils cassent lamentablement. Les arbres verts peuvent casser, mais c'est plus difficile pour la tempête d'abattre un arbre vert. L'arbre vert qui est Jésus tient bon dans la tempête. C'est ce que nous admirons dans le récit de la Passion. Jésus est plus que molesté, martyrisé absolument, et pourtant il tient bon. Dans son cœur, dans son âme, il reste uni au Père, car il est l'arbre vert qui tient bon dans la tempête. Il nous dit, vous, attention, inquiétez-vous pour vous, parce que si vous êtes sec, si vous m'abandonnez, alors que vous n'aviez pas, dit-il justement à ce moment-là, ses disciples, quelques heures avant, vous n'aviez pas besoin de bourse, ni de sandales, ni de bâton, ni d'épée, attention maintenant, puisque je sais que vous allez me quitter, vous allez avoir besoin d'une bourse, que celui qui en a une la prenne, que celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une, Et Pierre lui dit, on en a deux, ça tombe bien. Jésus leur fait comprendre que parce qu'ils vont l'abandonner, ils n'auront plus qu'à compter sur leur propre force, alors que quand il était avec eux, ils n'avaient pas besoin de toutes ces précautions. Parce que sans moi, nous dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Vous connaissez cette parole, frères et sœurs. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais si vous ne demeurez pas en moi, par la grâce, par le pardon reçu, que vous, en quelque sorte, que vous sortez de moi, que vous demeurez dans la disgrâce, je ne pourrai rien pour vous. Je ne pourrai rien pour vous. Inquiétez-vous et pleurez, parce que vous pouvez devenir, dans la disgrâce, des arbres secs qui cassent. Et parce que vous m'aurez délibérément chassé de votre cœur, par telle pensée, par telle parole, par telle action, par telle omission, je ne pourrai plus rien pour vous. Et c'est de cela dont il faut s'inquiéter. Si vous choisissez d'être des petits cathos secs, des bigotes et des biscottes qui vont se réduire en miettes, vous n'allez pas résister à l'épreuve, vous allez finir écrasé. Pleurez sur vous, nous dit Jésus, qui est écrasé de souffrance lorsqu'il nous le dit. Pleurez pour être sauvé. Lâchez-vous, laissez-vous à pleurer pour vous ressaisir, pour que les rameaux verts que vous tenez dans votre main, que nous avons brandis fièrement en chantant, signifient quelque chose de vrai, l'espérance dont il faut orner nos âmes et nos maisons, frères et sœurs. Qu'est-ce que c'est que ce rameau vert que nous tenons? C'est le symbole d'un fidèle du Christ, vraiment fidèlement uni au Christ, et qui est donc vert, qui est donc vivant, parce qu'il est mort à lui-même et vivant en Jésus. Et lorsque la tempête souffle, qu'elle arrache tout ce qui est sec dans ces heures difficiles, avec une petite remarque, c'est que Jésus dit dans l'évangile juste avant, lorsqu'il se fait arrêter au jardin de Gethsémani, c'est la première fois que je le remarque, « Ok, vous pouvez m'arrêter, c'est votre heure. » Il dit ça au monde. Et en fait, il révèle à ses disciples que cette heure qui paraît être notre heure, c'est-à-dire celle de l'humanité qui en veut à Dieu, en réalité c'est l'heure de Dieu. C'est mon heure qui est venue, dit Jésus. Vous croyez que c'est votre heure ? Vous croyez que cette destruction, que ces souffrances, que tout ce que vous m'infligez, vous le faites parce que votre temps est venu? Eh bien, en réalité, à travers cette destruction apparente et réelle, puisque je vais vraiment mourir en ma nature humaine, c'est le triomphe de la vie qui se prépare, car je suis le maître des temps et de l'histoire. Et cette heure que vous croyez vôtre, c'est mon heure. Le pouvoir des ténèbres, en fait, c'est mon heure. Car je vous tiens en ma main vigoureusement. Je tiens tous les enfants qui ne m'ont pas lâché. Je les tiens dans ma main, dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean. Frères et sœurs bien-aimés, prenons au sérieux cette parole de Jésus qu'il adresse aux filles de Jérusalem et à chacun d'entre nous, à toute l'Église. Essayons de pleurer et de nous inquiéter pour nous-mêmes, en suivant finalement le regard de Jésus qu'il porte sur nous. Nous n'avons rien à craindre pour lui. Il sait ce qu'il fait. Il va mourir en sa nature humaine, mais comme fils de Dieu, il ressuscitera. Ne nous inquiétons pas davantage. Soyons gagnés par une immense reconnaissance et regardons là où regarde Jésus, dans notre propre cœur. Promettons-nous de ne jamais oublier la leçon de la 8e station du chemin de croix. Osons répondre avec la petite Jeanne d'Arc en sa passion à elle. Quand on lui demande si elle est en état de grâce, elle peut répondre parce qu'elle s'est confessée. Si je n'y suis, Dieu veuille m'y mettre. Et si j'y suis, Dieu veuille m'y tenir. Merci Seigneur de nous avertir en vous contemplant, descendant au fond de l'enfer que nous vous avons réservé, et dans lequel nous vous avons poussé par notre lâcheté, eh bien nous voulons vous bénir, vous adorer, nous attacher à vous comme l'arbre vert et ne plus jamais vous quitter pour tenir bon dans les épreuves ici-bas et demeurer avec vous pour l'éternité. Amen.